Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Comics Weekly, épisode 61. Salut Benny.
Salut, oui, c'est bonjour.
Tu vas bien?
Ouais, ça va.
Pareil pour une émission de folie.
Ouais.
Avec un programme démentiel.
Ouais, haute en couleurs et tout. Il y aura du rouge, il y aura du bleu, il y aura du noir.
Va y avoir du rouge, plusieurs fois.
Ouais, et même du un peu de blanc, enfin bon, voilà.
Et puis du vert.
Oui, aussi.
Bref, tout ça qui va faire un beau mélange.
Ah ouais, ou pas, on verra. C'est notre lessive de la semaine, en fait.
Ouais, c'est ça, en fait.
On va laver notre linge sale en direct, pour vous.
Oh, en famille, on peut le dire, les auditeurs, c'est comme notre famille.
C'est un peu ça, oui. Une bonne famille de... Non, rien.
Oh, tu prends des risques. Allez, on va commencer par le numéro de la semaine.
Le numéro de la semaine, donc, de cette semaine 61, si je ne me trompe pas, vu que tu viens de le dire en plus, donc je ne dois pas me tromper, c'est le Adventure Comics numéro 61, qui date de 1941, et qui voit, devine Steve, la première apparition d'un personnage donc chez DC, hein, puisque c'est Adventure Comics.
Superboy.
Non.
Personnage qui est sous les feux de la rampe en ce moment, peut-être.
Pas tout à fait, non, pas vraiment sous les feux de la rampe.
Ah merde.
Un personnage dont on a parlé pas mal l'an passé, au fait.
Enfin, en même temps, vu le nombre d'émissions qu'on a fait, ça devient dur.
On lui a consacré un spécial.
Ouh là là.
Ah oui, quand même.
Le premier Starman.
Et oui, le premier Starman, donc Ten Knight.
C'était chaud.
C'est celui qui meurt, du coup, au début de la saga de James Robinson, dans les années 90.
Mais non, il meurt pas. C'est son fils qui meurt.
Ah oui, c'est son fils qui meurt. Eh ben, tu vois. Voilà. J'avais oublié. Comme je te dis, ça faisait un an, donc voilà. Très bien. Bon, c'était.
Bon, l'épisode était bien.
L'épisode est assez rétro, hein. Franchement, d'ailleurs, même sur la couverture, on a l'impression qu'il vole en tenant une bougie. Bon. Voilà. C'est, en fait, de sceptre, là, c'est pas top top, quoi. On a l'impression que c'est un truc ridicule, tout petit. Qui va pas faire grand chose avec.
Ouais, la pente est dangereuse là quand même.
Oui. Mais bon, enfin voilà, c'est... Voilà, ça pose vraiment le personnage, les origines qui ont beaucoup changé avec le temps, et puis en plus de ça, c'était un petit peu l'équivalent à l'époque du premier Green Lantern au fait. C'était un sous-Green Lantern, on va dire. Et puis c'est devenu quand même un personnage assez important pour l'univers DC par la suite, notamment grâce à James Robinson, qui a vraiment relancé la franchise dans les années 90.
C'est clair, ouais, c'est clair. Voilà. Bien, et ben on va passer aux news.
Ben on va faire un gros bloc Marvel, peut-être. Bah, premièrement, les X-Men. Beaucoup de news sur les X-Men cette semaine. Beaucoup de titres qui vont subir, non pas forcément un relaunch, mais dont les équipes vont changer. Alors par exemple, dans le titre X-Men, on nous a révélé une couverture, tu sais, avec des ombres, hein, un petit peu. Ouais. Enfin, ils ont fait ça pour tous les titres, en fait.
Oui, mais de toute façon, c'est la communication Marvel aujourd'hui, donc
voilà.
Pas le choix.
On nous a juste révélé un personnage, donc après les autres, on peut les deviner ou pas, hein, vous amuserez à ça. Jubilé, donc, sera dans les X-Men, donc assez bizarre, puisque Jubilé a-t-elle récupéré des pouvoirs ou,
Ben, de toute façon, elle est toujours dans les X-Men actuellement, depuis qu'elle est vampire.
Ah bah oui, c'est vrai, tiens. Ah bon? Même maintenant? Je sais plus.
Bah oui, elle fait toujours partie d'équipe.
Et tout le volume, donc voilà.
Alors, on la voyait moins dans le dernier arc, là, First to Last, mais l'épisode juste avant était un épisode quasiment centré sur Jubilé. Bon, en tout cas, elle avait une bonne place. Le dernier épisode de Victor Gishler, avant qu'il passe la main, c'était à Chris Yost, je crois.
Ça... Oui, Chris Yost, ouais. Alors du coup, donc bon bah voilà, en tout cas c'est l'un des personnages qui fera partie de cette équipe dorénavant, même si elle en faisait déjà partie.
A-t-elle la gueule vampire ou est-elle Jubilé classique?
Le look on va dire classique, quoi.
Elle a le look Coco.
Oui.
Coco, t'as le look.
Oh là là, bon, mais très oui. On va passer à la suite.
il faut.
Alors Mike Carey, lui, va partir d'X-Men Legacy après Schisme, en fait.
Ça fait un petit moment qu'il est sur le titre, quand même.
Ouais, ça fait des années.
6 ans,
ouais, déjà. Putain. Et du coup, bah voilà, donc il tire sa révérence et il sera accompagné pour son dernier arc de Coy Pam au dessin.
Qui dessine déjà actuellement de temps en temps des épisodes d'X-Men Legacy et c'est pas fameux, hein. C'est Coy Pam en même temps, on sait à quoi s'attendre.
Et bon, bah visiblement, en tout cas, la constitution de l'équipe ne change pas trop. Le personnage révélé est Malicia, donc c'est un petit peu la chef d'équipe depuis le début, en plus. Hein. Alors, au rayon des changements, donc la série Generation Hope continue. Deux personnages révélés, donc il y aura Sebastian Shaw et James Asmus. Alors, je ne sais même plus qui c'est James
Ah,
Asmus.
James Asmus, ça sera le scénariste.
Ah! Mais bien sûr, James Asmus, c'est donc Ibrahim Robertson. Mais oui, je ne sais pas pourquoi je relis mes notes comme ça, moi. Ça va pas du tout. James Asmus et Ibrahim Robertson, donc au dessin, et Sebastian Shaw et le personnage sur la couve, bien sûr.
Sebastian Shaw,
Sebastian Shaw dans Generation Hope, quand même.
qu'est-ce qu'il vient foutre là?
Bah ouais,
Bon, en même temps,
bizarre.
c'est d'un titre que je ne suis pas, donc peut-être que ça a des conséquences logiques, mais je sais pas. Ça m'intéresse pas en tout cas. Je sais pas toi, mais
Bah ouais, non mais voilà. Faut voir la direction que prend le titre. Jusque-là, ça m'a pas trop intéressé. Et j'ai eu de bons échos, bizarrement, de Generation Hope récemment, je veux dire.
d'accord.
Donc, je sais pas si je vais récupérer mon retard ou pas, mais bon, en tout cas, ce sera pas avant un petit moment. Pour Uncanny X-Force maintenant, Dark Angel est toujours de la partie, donc c'est celui qu'on voit sur la couve, quoi. Et Rick Remender sera accompagné donc de Robbie Rodriguez au dessin pour la suite.
D'accord. En tout cas, c'est donc Rick Remender qui reste.
Oui. Bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Enfin, au vu des derniers épisodes.
Oui, c'est clair.
Ben voilà, en plus c'est tout pour le bloc X-Men.
Et t'es-tu amusé à coller les covers pour voir de quel côté ils seront?
Ah, pas du tout. Je sais qu'il y a une certaine. On peut faire une frise.
Oui, on peut faire une frise et on peut arriver à déterminer de quel côté chaque équipe sera. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui vont se ranger du côté d'Uncanny X-Men, notamment Generation Hope. Quand on la colle à Uncanny X-Men, on voit que le dessin continue. Et de même que je dise pas de bêtises, ça doit être X-Men Legacy, on peut la coller à Wolverine and the X-Men. Et donc on voit qu'ils se rangent plutôt du côté de Wolverine.
D'accord. Non, mais je me suis pas amusé du tout à regarder ça, donc bah, falloir que je le fasse, effectivement.
Alors il reste quelques suppositions quant à certaines équipes. Est-ce qu'il y aura des équipes, vu qu'on a 9 titres réguliers actuellement?
Est-ce que ça aura vraiment une incidence?
Voilà, et puis est-ce qu'il va y avoir des équipes neutres? Est-ce qu'il va y avoir des équipes vraiment rangées à chaque fois? Et toujours pas de traces de Cyclope.
Ouais. Eh oui. Où est-il? Où est-ce qu'il se cache? Ah, bah tiens, mais peut-être que justement, il se cache ailleurs. Alors, au fait, il y a aussi cette news qui est tombée cette semaine, le teaser de Shattered Heroes. Alors, Shattered Heroes, c'est l'après Fear Itself. Donc, ce sera une suite de one-shot. Qui nous montreront ce que deviennent les super-héros dans l'univers Marvel après Fear Itself, quoi. Les retombées de Fear Itself.
En plus de cet aftermath qu'il y aura pendant, je crois, un mini en 6.
Battle Scars, hein, c'est ça, je crois,
Ouais,
dont tu
peut-être un
parles.
truc dans le genre.
Ouais,
Battle
exactement.
Scars Galactica, bien sûr.
Oui, ouais, exactement. Donc Shattered Heroes, suite de One Shot, et au fait, il y avait un tie-in, un teaser, pardon, n'importe quoi. On va y arriver.
Ouais, on va y
Sur
arriver.
lequel on voyait à la base Thor, par exemple, parmi les super-héros représentés par John Romita Jr. Et au fait, Thor a disparu pour laisser la place à son remplaçant, je ne sais même plus son nom.
Ouais,
Thanarus, je crois.
ouais, j'étais pas loin.
Oui. Thanarus. Et du coup, eh bien, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition entre Iron Man et Valkyrie. Et ben, on ne sait pas qui c'est, parce que c'est encore une ombre. Alors peut-être que cette ombre serait Cyclope, pourquoi pas?
Moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand même ce plan de on voit Thor et puis finalement on remplace le personnage par Thanarus. Ça sent pas du tout la décision éditoriale prise à la va-vite. Ah non, non, vite, vite, il faut effacer parce que finalement on va le faire crever Thor. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des répercussions, les gens disent qu'il n'y a rien.
Ouais.
Ça fait un peu forcé, quoi. Je sais pas ce que fait Marvel, je ne comprends pas.
Mais moi non plus. Là, franchement, les voix de Marvel sont impénétrables et en plus de ça, bah
On
ouais.
n'a pas envie de les pénétrer.
Non, voilà. C'est ça, c'est
D'accord.
fait.
Oui.
On va continuer avec. Alors, comment enchaîner là-dessus? Les Forgiven, par exemple, ça te dit quelque chose?
Mais ben,
Mais moi non plus.
je
Je
ne
ne sais pas.
connais que les Unforgiven
Mais non, mais
de
les.
Metallica, bien sûr.
Oui. Oui.
Mais j'enchaîne dans la vanne aujourd'hui, je
Oui,
suis
d'ailleurs, je pensais à autre chose, mais qu'importe.
je suis de
Donc,
bonne humeur.
les Forgiven. Les Forgiven, ce sont des espèces de personnages, de super-héros, qui ont été montrés sur divers teasers cette semaine. Au fait, chacun des Forgiven, il y en a 5, ont été montrés sur différents sites américains. Sur CBR, sur Bleeding Cool News, c'est pas ça du tout. Antine Cool News et Bleeding Cool, du coup, je pense. Etc., etc. Et,
Ça, c'est très bien comme, c'est super intéressant et super intelligent.
oui, mais par contre, le problème, c'est que je ne sais pas du tout qui sont ces Forgiven par rapport à Fear Itself. En tout cas, ça devrait avoir un lien. Ils vont apparaître pour la première fois, visiblement, toute l'équipe dans Hulk versus Dracula. Donc, Peter
Pardon,
et
je
Ryan
suis désolé.
Stegman.
Je suis désolé. Ça m'a surpris là, je l'attendais pas celle-ci. Hulk
Oui.
versus Dracula, bah oui. Après tout, faisons des projets dont tout le monde se branle.
Ouais. Voilà, mais c'est un peu ça. C'est
Et on nous avait prévenu, hein. Le règne des vampires va durer 1 an et demi.
Eh oui, ouais, malheureusement.
Peut-être que Hulk va lui arracher la tête d'un coup de poing et puis ça s'arrêtera là.
Bah, ce serait bien.
Ce sera un one shot de 2 pages.
Enfin voilà, donc bah, c'est tout pour Marvel. On va passer peut-être à Dynamite, soyons fous. Dynamite qui, après Green Hornet, après le fantôme, eh bien, vient de racheter la licence The Shadow.
Ah ouais, donc ils l'ont racheté à DC,
Ben oui.
puisque c'était DC
Puisque
qui
c'était oui.
publiait The Shadow dernièrement.
Ouais. The Shadow, donc toujours avec des couvertures de notre ami, comment s'appelle-t-il?
Alex Ross.
Alex Ross, oui, bien sûr, voilà.
C'était au hasard.
Oui, non, non, toujours des couvertures d'Alex Ross. Alors, je ne sais pas quelles vont être les équipes sur ce titre, puisque ça vient d'être annoncé. Mais voilà, donc bon, bah encore une licence qui part chez Dynamite. On verra s'ils arrivent à l'exploiter à peu près correctement.
C'est la baston de licence entre IDW et Dynamite, hein, quand même.
Ouais, bah, c'est un petit peu leur cheval de bataille actuellement de reprendre des anciens personnages.
Ouais, bah c'est pas mal pour une compagnie qui détient Zorro, le cheval de bataille.
Voilà, bon, très
Ah
bien.
bah oui, écoute, je t'avais dit, je suis bonne humeur, hein, je vais faire de la vanne de merde tout le long.
D'ailleurs, je t'ai dit Alex Ross, il y a aussi JLA qui l'a accompagné sur les Jay Lee, hein, voilà, qui l'a accompagné sur les couves teasers
Voilà un
de The
monsieur qui me
Shadow.
manque. J'aimais beaucoup le style de Jelly.
Ben oui, voilà. Donc,
Notamment ses Namor, je sais pas si tu t'en rappelles.
ouais, je m'en rappelle.
Magnifique. Ah bref, excuse-moi.
Et bah du coup voilà, c'est tout. On va passer chez DC. Et chez DC, on a la date enfin du Batman Earth One, qui devait sortir de mémoire en janvier 2010.
Non, 2011 je crois, parce que... Ah, quoi qu'attends, j'en sais rien. Quand c'est qu'ils ont annoncé Earth One déjà? La gamme. Est-ce que c'était en 2009 ou en 2010?
Oh, je crois que ça fait un bail. Oui, je pense
Ou un
que
check
c'est
it.
toi. Ou un check it.
Ouais, c'est pourri, je sais. Le Superman Earth One est sorti cet automne,
Oui, bah
en
pour moi c'est un
2010.
check-in.
Donc ouais, non, il devait sortir en janvier 2011.
D'accord, oui, bah alors je sais plus. Mais en tout cas, il est annoncé au final pour mai 2012.
Ouais, Gary Frank, ça prend du temps. Mais bon, c'est beau.
Ouais, bah c'est beau, et puis est-ce que ce sera bien? C'est la grande question. Alors le Superman Earth One m'avait un petit peu déçu, même si c'était Straczynski. Là c'est quand même Geoff Jones sur du Batman, depuis tant que j'attends Geoff Jones sur Batman, parce que c'est quand même la grosse franchise à laquelle il n'a absolument pas touché du tout, finalement.
Bah, il a dû faire peut-être un ou deux trucs sur Batman, mais ça devait être des petits
C'est
trucs
léger.
ridicules, quoi.
C'est
C'était pas
genre
des gros arcs.
qui lave la Batmobile avec Alfred et qui font une bataille d'eau. Hein. Ça devait sortir de ça, parce que sinon je m'en souviendrai.
Non, mais il avait peut-être, tu sais, des petits backups ou des trucs comme ça. Je crois qu'il avait dû écrire des histoires peut-être dans les Batman Black and White qui sortaient à l'époque dans Gotham Knights, je crois. Mais à part ça, je crois pas qu'il ait fait de gros arcs majeurs sur Batman. Bah, corrigez-nous hein, si on se trompe. Fessez-nous avec des orties.
Ouais, par exemple. Surtout Steve, il adore.
Ouais, comme ça je pourrais plus m'asseoir.
Donc, c'est fini pour les news en plus. Hein.
Là, on va attaquer la double review de la semaine.
Ouais,
Je crois
qui
que
est...
là.
Alors, je vais l'annoncer. C'est le Daredevil numéro 2 du présent volume, hein, puisque
Donc le
nous en
volume
sommes à je
3.
ne sais pas combien de volumes.
Volume
Le
3.
volume 3 déjà?
C'est tout. Bah, c'est
Enfin,
pas.
déjà, mais non, c'est tout, oui.
Non, c'est tout. Enfin, c'est. Ouais, voilà. C'est pas énorme. Il y a par exemple le Punisher qu'on est rendu à son volume 9. Ça, c'est déjà beaucoup plus. Moon Knight, ça va être le volume 8, je crois. C'est pas mal, quoi.
Effectivement, mon cher confrère. Donc, bah, alors, du coup, les crédits, déjà.
Mark Waid au scénario, Paolo Rivera au dessin et ancré par, je ne sais pas si c'est son frère ou son cousin, Joe Rivera. Voilà.
D'accord,
On porte le
j'ai
même
même pas
nom,
remarqué en
donc.
plus. Oui, d'accord. Mais en tout cas, ça ressort bien.
Ouais. Bah déjà, on va peut-être parler du dessin pour commencer. Moi, je trouve ça superbe. Enfin, après, je sais pas si tu
Oui,
aimes ou
non, mais
pas, mais.
enfin, le dessin, ouais, est vraiment génial. Moi, ça me fait penser vraiment à du Strange, quoi, en fait, à la grande époque de Strange, avec un petit peu le Daredevil de comme Jane Colan. Mais pas que, hein, parce que Jane Colan avait quand même un style assez sombre. Là, c'est un peu plus cartoony. Enfin, je sais pas. Ça me fait penser aussi à.
Il y a un petit côté rétro, hein, c'est clair, qui est donné dans ce style pour rappeler un petit peu l'origine du personnage, revenir à ce qu'il était au début. De toute façon, c'est ce que Mark Waid avait annoncé dès le départ. Il voulait revenir à quelque chose de plus léger, un peu plus dans le ton du début. Et effectivement, on y est, autant au niveau de l'histoire qu'au niveau du dessin.
Résolu.
Après, bon, Paolo Rivera va s'inspirer de plusieurs styles parce que on pourra pas m'enlever de la tête que la façon dont on voit le sens radar de Daredevil, c'est ni plus ni moins que du John Romita, quoi.
Ouais. Non,
C'est
non,
des
mais là.
traits très très façon Romita, quoi.
Ouais, et non, mais en plus de ça, Paolo Rivera m'avait pas tellement impressionné sur What a Moment in Time, souviens-toi. Parce que c'était lui, hein. Et là, franchement, son style est tout à fait adapté à Daredevil. Donc, graphiquement, à Daredevil, t'as vu, je l'ai bien dit, pour une fois. Donc voilà, donc c'est graphiquement ça fait plaisir, ça donne un ton à la série assez rétro et assez fun, disons-le comme ça.
Son storytelling au niveau de la mise en page est super intéressant. On a cette double page dès le départ face à Captain America qui est magistrale.
Ouais.
Ça me fait penser à du Marcos Martin dans la façon de la mettre en page.
Ah oui, bah
Et
c'est normal, puisque Marcos
le
Martin et lui vont alterner.
voilà. Et je pense que le tandem va bien marcher parce que c'est assez proche finalement.
Ouais. Et en plus de ça, ben voilà, donc l'ambiance générale est assez fun dans cet épisode. On va parler du scénario du coup. Bon, ben, je te laisse commencer, hein. Vas-y.
Ouais, bah comme tu veux.
Ben, en fait, bon, alors je commence. Donc, ben, ça s'arrête là où. Ça commence, je veux dire, là où on s'est arrêté la dernière fois, ce qui est logique. Captain America, donc, attaque vraisemblablement Daredevil. Et bah, j'avais peur en fait que ça se termine sur une conclusion du style oh, je voulais vérifier que c'était toi.
Bah, c'était un peu ça.
C'est un peu ça, mais pas tout à fait au fait. Il y a un peu plus que ça au fait. Il lui reproche des choses.
Ah, je voulais vérifier que c'était toi. Bon, bah du coup, je t'arrête. Voilà,
Ouais.
c'est ça le truc.
Oui. Bah ça, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'attendais
Oui.
juste à une explication à la con du style oui, t'étais pas là depuis longtemps, je voulais voir si c'était pas un usurpateur, point.
Mais par rapport justement aux conséquences de Shadowland. Donc on y est, quoi. C'est vraiment ce qu'on attendait, un petit peu de choses qui avancent là-dessus, quoi. Parce qu'on peut pas prendre le contrôle de Hell's Kitchen, saccager un petit peu tout sans conséquences, quoi. Il y a au moins quelqu'un qui dit, bon, bah voilà, avec les conneries que t'as faites, je vais te foutre en tôle. Bon, est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est autre chose, mais.
Ouais, bon, enfin, moi ça m'a pas déçu, au contraire, hein, puisque je m'attendais à un truc plus simple. Mais enfin, le bon côté, c'est que voilà, ça référence Shadowland enfin, puisque dans le premier épisode, ça m'avait un petit peu inquiété que ce soit tout éludé.
C'était notre inquiétude à tous, hein, rappelle-toi.
Ouais, et du coup, bon, bonne surprise. Néanmoins, ça fait un petit peu scène, tu sais, Mila pour contenter les fans, et puis après on passe à autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, puisque de toute façon,
J'espère, j'espère.
la fin de la scène, c'est je reviendrai te voir.
Ouais.
Enfin, c'est ce que le Daredevil lui dit.
Ouais. Mais bon, je sais pas, au fait. Je sais pas qui croire, justement, entre l'auteur et Daredevil. C'est un petit peu la même chose. Mais, non, mais enfin, voilà, je me demande si c'est pas juste un truc pour contenter les fans et voilà, on passe à autre chose parce que faut dire que la suite de l'épisode n'a strictement rien à voir, du coup.
Non, non, c'est clair, on passe
À une enquête.
ouais, l'enquête bah, qui avait été amorcée dans le premier épisode, hein, l'enquête sur ce fameux Jobrani, gars que Matt avait essayé de défendre suite à des accusations de brutalité policière. La nouvelle assistante d'IA, donc l'assistante du procureur qui s'appelle Kirstine, j'ai oublié le nom de famille, ce
Alors,
qui n'est pas facile à porter quand même.
mais je ne sais plus du tout. Mais
Elle était venue lui dire qu'il y avait peut-être quelque chose de louche puisque plusieurs avocats avaient refusé de le défendre. Donc il fallait peut-être que Daredevil enquête. Et bien sûr, il se défendait en disant mais non, c'est pas moi Daredevil, enfin le truc classique, quoi. Et on se disait, il y a peut-être une pseudo-aventure sous-jacente qui commencerait à se lier entre Matt Murdock et cette assistante d'IA. La
Ouais.
façon dont elle réagissait vis-à-vis de lui,
Tout à
le
fait.
crayon qu'elle lui lançait à la gueule, etc. Enfin, il y avait quelque chose, quoi. Et là, Mark Waid nous prend tous à contre-pied. Enfin, je pense que toi non plus, t'avais pas dû le voir venir, ça.
Alors, justement, vas-y, on va le révéler ou pas?
Oui, on va le dire, enfin.
Petit spoil, mais peu, léger.
Voilà, elle couche avec Foggy.
Oui. Alors, justement, toi, en antenne, tu me disais quelle surprise, mais j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas trop saisi si elle couche avec Foggy par intérêt juste un soir, ou si c'est une relation qui dure et qui va durer.
En tout cas, même si c'est une relation d'un soir, elle partage avec lui les informations. Donc ça m'étonnerait que ce soit juste une coucherie d'un soir, puis sachant qu'ils se disent bon, on se voit ce soir. Tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment une nouvelle relation sérieuse, enfin sérieuse, en tout cas aussi
Ouais,
sérieuse que ça peut l'être
faudra voir. Et
dans les
alors, faudra
comics.
voir aussi si c'est pas hein, toujours la ficelle éculée du ah bah au fait elle travaillait pour les méchants et tu vois les
Je
choses
sais
qui
pas,
sont
je pense
tout
que
ça.
Mark Waid est assez intelligent pour pas nous faire un piège comme ça, enfin pour pas nous faire un truc comme ça. Mais après tout, après si ça sert bien le scénario, faut voir. S'il nous le révèle au numéro 70, en admettant qu'il est jusque-là, et que ça te fait le twist super intéressant qui remet tout en cause, pourquoi pas? Maintenant s'il nous la sort au numéro 3, oh là là, c'était elle qui bossait pour le Kingpin, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Ça va être ridicule, ouais.
Ou bien alors, elle bosse pour, je sais pas, Captain America, tu vois, elle enquête sur Matt Murdock, elle a un rapport avec le gouvernement, enfin, j'en sais rien.
Enfin, dis donc, c'est une agente, ça se dit pas. Enfin, c'est un agent secret, mais qui aime son métier et qui va jusqu'à coucher avec. Meuf qui se met bien en condition quand même. Enfin,
Ouais, non, t'as raison, non. Ce serait plutôt le contraire, ce serait plutôt une.
venant de la Black Widow, ça m'étonnerait pas, mais bon.
Bon, alors,
Ouais.
toujours est-il que autre chose, il y a cette intrigue avec avec bah au fait c'est ce couple qui vient faire appel à lui.
Ce couple qui vient faire appel, je m'en... Attends, ça me dit rien.
Mais c'est un couple gay, je crois. Hein.
Ah oui, non, c'est en fait, c'est Daredevil qui va enquêter
Oui.
sur Jobrani, et c'est un des avocats qui avait refusé de défendre Jobrani, justement, et il va lui demander pourquoi il a refusé d'enquêter sur le cas de Jobrani.
D'accord.
Enfin, pourquoi il a refusé de le défendre, plutôt. Et c'est là qu'il lui explique que, il avait reçu des menaces par rapport à son couple, justement. Il avait peur pour son couple. Le fait qu'il soit gay... Je suis pas sûr que ce soit vraiment important dans
Ah
l'histoire.
non, non, du tout, non, non, mais ça fait partie de l'histoire, quoi, en tout cas.
Ouais, voilà. Et donc, justement, ça corrobore les soupçons qu'avait Matt, qu'il y a quelque chose de louche. Et il va enquêter de son côté pour comprendre qui, surtout, a envoyé ces menaces. Et là, pareil, ça c'est un spoil sans être un spoil, puisque on nous l'avait annoncé déjà dès le début de la série, que Daredevil allait rencontrer des ennemis qui ne lui étaient pas des ennemis habituels.
Ben en plus, pour ceux qui ont vu les couvertures, on sait de quel ennemi il s'agit, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, au fait.
Ouais, mais alors
Parce
par
que.
contre, la fin est bluffante.
Oui, effectivement.
Parce que je m'attendais pas à ça. Voilà, bon, on va le révéler. Donc si vous voulez vraiment pas savoir, bah, je vous conseille d'avancer un petit peu plus loin dans la review, voire même de zapper totalement. On peut peut-être donner la note maintenant, et puis comme ça, les gens pourront zapper la review s'ils veulent vraiment pas savoir.
Ouais, tout à fait.
Pour moi, c'est un total bail.
Alors, pour moi. J'ai trouvé ça sympa. Donc, allez, je vais être sympa, je vais dire un bail. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, donc je vais pas bouder mon plaisir. Néanmoins, tu vois, il y a plusieurs petites choses comme ça. Le coup de la petite amie de Foggy, j'attends de voir si c'est vraiment sa petite amie ou si c'est un truc juste comme ça pour 3 épisodes. Le coup de Cap qui arrive et qui dit on se reparlera. Bon, on verra s'il y a vraiment des suites à ça, si c'est pas juste pour contenter les gens qui ont gueulé parce que la continuité n'était pas plus référencée que ça.
En même temps, on nous avait pas dit que Daredevil allait faire partie des Avengers?
Ah oui,
Je crois
si,
bien.
qu'il allait
Donc
rejoindre les Avengers, exactement,
de
oui.
toute façon, je pense qu'il va être amené à re-rencontrer Cap.
Ah bah tu vois, j'ai oublié ce détail, mais oui. Bon, enfin, donc, toujours est-il que, voilà, donc il y avait plusieurs petits points qui font que, bon, bah, je reste un petit peu sur mes gardes, et puis, bon, le final, je l'ai vu venir, en fait, j'ai vu qui était le grand méchant, puisque j'avais déjà vu les couvertures. Malheureusement, Marvel a spoilé un petit peu, quoi.
Ouais, mais est-ce que tu t'attendais à cette scène
Non,
finale? Ça que je veux
non,
dire.
non, par contre, non. Non, c'est vrai que c'est assez original. À voir comment ça se goupille. Et utilisation intelligente, pardon, des sens de Matt Murdock aussi.
Carrément.
Donc pourquoi pas.
Allez, on va passer à la petite partie spoiler, donc on va révéler qui est l'ennemi. Donc si vous voulez vraiment pas savoir, avancez à la prochaine review, il y a le minutage, c'est fait pour ça. Bah, si vous êtes en voiture, avancez, je sais pas, moi, 2-3 minutes. Désolé, hein, on va faire court. Donc bah, l'ennemi, c'est Klaue.
Ouais. Alors
Ça
c'est
on
bah
nous
alors.
l'avait révélé, mais c'est pas Klaue.
Mais personne ne le connaît. Donc qui est Klaue? Non, je déconne, personne ne le
Attends.
connaît, c'est pas l'ennemi le plus connu de tous, quoi, en fait.
Oui, ouais, enfin oui, c'est vrai que c'est pas non plus un ennemi ultra connu. C'est pas un Magneto ou Docteur Doom, quoi.
Exactement.
En fait,
Bah,
Matt
c'est
va tomber
celui qui a
sur
une
une
antenne
usine.
CanalSat au bout du bras, là.
Matt va tomber sur une usine en fait avec des robots à l'effigie de Klaue. Enfin, je sais même pas si c'est des robots, on dirait des espèces d'images transparentes, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Est-ce que ce sont des projections? Est-ce que ce sont vraiment des robots? Je suis pas certain. Mais bon, ses sens sont affectés et il se retrouve pris par ses ennemis. Et donc, on va pas révéler quand même la dernière page, mais on s'attendait à un combat contre Klaue et finalement ce sera peut-être pas ça qu'on va avoir.
Oui, tout à fait. Enfin,
C'est ça que j'ai trouvé intelligent.
ce sera un combat contre Klaue, mais un combat sur un autre, comment
Sur
dire,
un autre plan.
sur un autre plan, oui.
Et c'est ça que j'ai trouvé intelligent, parce que finalement, même si on nous avait révélé des choses, on a quand même des surprises.
Non, non,
C'est
mais
pour ça que
oui, non, mais.
j'accroche, moi.
Non, mais c'est vrai que, ah, bon, à la réflexion, c'est pas si mal, mais voilà, je me pose quelques petites questions.
Ah bah oui, non
J'attends
mais...
de voir la suite quand même, voilà.
Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer. Et moi, j'adhère totalement à cette nouvelle direction pour le titre, quoi. C'est ce que je disais pour le premier numéro, et le deuxième numéro confirme ce à quoi je m'attendais. C'est plus léger, c'est un ton vachement frais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui est toujours du dark, les mecs dans le pathos total. Et moi, ça me fait plaisir de voir, même, c'est pas non plus, c'est l'exemple que je te donnais, c'est pas non plus du Tiny Titans, quoi. C'est pas de la franche rigolade, des petits gags qu'on s'en fout, enfin voilà, qui n'ont aucune incidence. Il y a quand même une histoire, c'est pas non plus tout comique, mais ça reste léger. Et c'est ça que j'apprécie, parce que ça fait du bien de dire du comics léger aussi de temps en temps, quoi. Et puis bon, c'est quand même relativement bon, c'est pas une sombre daube non plus. Bon, parce que ça pourrait être léger, être une merde aussi. Donc voilà. J'espère que Mark Waid, en tout cas, s'il continue comme ça, va rester très longtemps sur le titre. Et puis plus tard, peut-être redonner à Daredevil ce côté sombre qu'il avait pendant un temps, mais là pour moi ça fait du bien aussi de pouvoir souffler un peu.
Non mais tout à fait, tout à fait.
Bien, on va passer au review solo maintenant.
Tout à fait.
Et on va commencer avec le DC Rétroactive Flash des années 90, numéro 1, mais de toute façon je doute qu'il y ait des numéros 2, honnêtement. Le principe, ce sont des histoires qui vont se placer dans l'esprit des années qu'ils sont issues, c'est-à-dire qu'on a eu des années 70, les années 80, on a maintenant les années 90. Et il y a deux histoires, il y a une histoire nouvelle, qui est dans ce principe-là, et un reprint.
D'accord.
Dans la nouvelle histoire, c'est Brian Augustine qui est au scénario, donc un des scénaristes de Flash des années 90, qui
Ouais.
est resté très longtemps sur le titre.
C'est bizarre, ça me dit rien. Mais enfin, en même temps, le Flash, je l'ai pas tellement suivi dans les années 90.
C'est le Flash Wally West, quoi, le Flash du volume 2. On a Mike Bowden au dessin, Mike Bowden à l'ancrage aussi, accompagné de Joe Sung. Alors, c'est une histoire assez basique, c'est pas un truc. De toute façon, c'est pour donner un feeling de ce qui se faisait dans ces années-là. Flash est perdu dans le temps, sans mémoire, il sait pas ce qui lui arrive. Et il se trouve dans une espèce de, avec une espèce de femme avec un côté assez oriental, mais en même temps un peu futuriste. Il y a plusieurs, comment dire, influences qui sont là. Et il se retrouve attaqué par des espèces de tempêtes de sable qui semblent être un démon qui va tout dévorer.
Bon, faut arrêter la drogue, Steve, hein. Parce
Voilà.
que là, ça fait quand même une minute que tu m'expliques un truc, mais ça va pas. Ça va pas du tout, cette histoire.
Chose marrante, c'est que le Flash a le costume rouge et argenté qu'il y a eu pendant un moment dans la série. Voilà.
Ouais.
Ceux qui l'ont lu s'en rappelleront. Et finalement, il va retrouver la mémoire. Au passage, retrouver son costume classique. Ça, c'est magique. C'est-à-dire que hop, je me rappelle et hop, je retrouve le doré. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais. Et il tombe face à un ennemi. En fait, il se rend compte que cette espèce de démon de sable est finalement un ennemi de Flash. Je vais pas dire un ennemi habituel, mais un ennemi qu'il avait déjà rencontré. Alors, c'est une toute
S'appelle le
petite
pâté de
carrière.
sable.
Je vais révéler le nom, parce que de toute façon, c'est un personnage qui est apparu dans 4 épisodes de Flash. C'est Kid Gore, mais version 2.0.
D'accord.
Personnage totalement oublié. Il va donc se rappeler Linda. Linda va être son encre et il va essayer de repartir dans le temps, à retrouver Linda. Bon, c'est le truc classique, hein, c'est vraiment l'impression qu'on a d'avoir lu cette histoire plusieurs fois, mais en même temps c'était fait pour. Après, on a un bouquin reprint, c'est le Flash volume 2 numéro 139 qui était écrit par Mark Millar à l'époque. Ouais, il avait fait Mark Millar avait été passé sur à peu près 11 épisodes de Flash et c'était son dernier arc. C'est dessiné par Popman. Et donc c'est le début de l'arc qui s'appelle Black Flash,
ouais.
qui était en trois parties, et donc on a cette première partie.
Oui, où il trouve le Black Ring, bien sûr.
Avoir affaire au Black Flash, qui est donc la mort pour les Flash.
Oui, tout à fait. Je dis
Voilà.
ça comme ça, hein, tu sais, oui, tout à fait, bien sûr.
Bon, dans l'ensemble, le numéro est pas mauvais, mais c'est franchement pas un truc à posséder absolument. Si vous avez aimé le Flash dans les années 90, bah. Prenez ce numéro, ça vous rappellera une période qui était sympathique. Si vous n'avez pas aimé, bah, passez à côté, ça va pas vous intéresser. Donc disons que c'est un check-it, quoi.
Ok, bah écoute, j'enchaîne alors sur le X-Men Schisme. Alors, X-Men Schisme numéro 3, déjà. Toujours Jason Aaron au scénario et Daniel Acuna au dessin. Et curieusement, déjà, pour parler un petit peu du graphisme, du dessin, bah, il m'a bien plus impressionné, étonnamment, alors que j'attendais rien de cet artiste. Enfin, j'attendais rien de particulier de cet artiste. Il m'a bien plus impressionné là-dessus que les deux prédécesseurs, qui étaient quand même Frank Cho et comment comment s'appelle-t-il?
Je ne sais pas.
C'était pas John Cassady sur le premier?
Je ne sais pas, j'ai pas lu Schisme du tout.
Oui, bah, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est graphiquement, c'est pas mal du tout pour du Daniel Acuna, qui d'habitude ne me plaît pas plus que ça, quoi.
D'accord.
Bah, c'est le bon point. Maintenant, on va passer au mauvais point. Le scénario, alors, ah si, bon, je vais quand même être sympa. Enfin, ça bouge. Enfin, il y a de l'action, il se passe des trucs.
C'est bien parti 3 sur 5, il est temps quand même.
Ouais, mais malheureusement, c'est toujours aussi forcé. Alors, les ennemis, bah, au fait, c'est le club des damnés, mais version enfant. Au fait, le club des damnés s'est renouvelé et il est dirigé maintenant par une bande de psychopathes, mais des gamins qui ont, c'est ridicule, qui ont une dizaine d'années, quoi.
Ouais, quand même.
Et ils sont, mais super énervants, et on se dit, c'est ridicule quand même, par rapport à leur âge, tout ce qu'ils arrivent déjà à faire, et puis, bon, il y a des répliques vraiment ridicules. Par exemple, il y en a un, enfin, le chef qui arrive à dégommer tous les mutants qui sont présents, dont Emma Frost, Magneto, etc. Et il dit, oui, j'ai jamais couché encore, mais je pense que ça me procurera un plaisir inférieur à ce que je ressens en ce moment, quoi.
Wow.
Enfin, bon.
C'est des Damian Wayne, quoi.
Voilà, c'est des Damian Wayne en puissance. Mais il y en a cinq comme ça, insupportables, et en plus c'est les grands méchants de cette histoire. Et puis bon, bah les prises de bec entre Cyclope et Wolverine, hein, puisque c'est un petit peu le but de la mini, de voir comment ça va clasher entre les deux, sont sacrément forcées. C'est forcé. C'est forcé. Je vois pas pourquoi ça pèterait plus maintenant. Enfin si, en l'occurrence à la fin de l'épisode, ça pète sacrément, mais dans le vrai sens du terme. Grosse explosion. Mais je vois pas pourquoi ça clasherait plus entre maintenant que qu'avant, quoi. Je veux dire, voilà.
D'accord.
Donc voilà, il y a une impression vraiment forcée dans le scénario, dans les répliques. Jason Aaron est carrément meilleur sur Sculpt et même sur Wolverine, bien souvent, que sur Schism. Bizarrement, là, bof, quoi. Pour le moment, pas terrible, terrible. Bon, alors il y a ce final. Ce final un peu déjà vu, quoi.
Tu sais que tu me donnes super envie de lire la mini quand même là.
Ouais, non, mais pour le moment, j'ai envie de dire, cet épisode, les autres, j'aurais dit passe, parce que franchement, ça m'a déçu. Cet épisode, je vais dire check it, peut-être. Parce que de toute façon, vous pouvez commencer à lire avec cet épisode, les deux précédents, c'est pas forcément utile, hein, vous avez pas raté grand-chose. Donc si vous voulez vous mettre à schisme, et que vous voulez essayer pour voir ce que ça donne, essayez cet épisode. Mais bon, voilà, je vous garantis pas un grand moment de lecture, c'est assez basique, voilà. Pour le grand événement qui devait tout chambouler, j'attends toujours de voir vraiment où ça va.
C'est cool, au moins avec toi on fait des économies.
Ouais, voilà.
N'achetez pas les deux premiers, passez aux trois. Non mais c'est dommage, c'est dommage.
Ouais, un petit peu dommage.
On va continuer avec le Venom volume 2 numéro 6, Rick Remender au scénario, Tom Fowler à la partie graphique, en plein Spider Island. Ça va
Ouais.
être, je pense, le mini-event que, en tout cas, de mon côté, je vais essayer de suivre un petit peu parce que ça m'intéresse. Le père de Flash est en train de mourir à Lost. Et Betty l'appelle en disant il faut que tu viennes parce qu'il va pas vivre très longtemps. Puis ben, bien sûr, il y a cette festation d'humains avec des pouvoirs de Spider-Man, donc l'île de Manhattan a été mise en quarantaine, ils ne peuvent pas évacuer son père, donc il est
Ouais.
coincé quoi. Et le général pour qui il travaille va lui demander d'aller capturer un espèce de monstre araignée. J'ai cru que c'était Kane au début, ce n'est pas Kane.
Ouais.
C'est... Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi, j'ai peut-être... Bon, j'ai pas lu tous les tie-ins encore, donc voilà,
Attends,
peut-être
c'est
que...
pas l'un des deux qu'on voyait dans Spider-Island.
Eh ben,
Parce qu'il y en a deux, au fait. Et
mais oui.
il y en a un, effectivement, c'est Kane. Bon, c'est plus un spoiler, on le sait, hein. Mais par contre, l'autre, je sais pas qui c'est, quoi, du coup.
Eh bien, alors, je pense pas que ce soit l'autre, ça me paraît impossible, parce que son identité est révélée, et c'est là que j'ai pas très bien compris
Bah,
pourquoi.
Kane, il l'appelle Tarantula, généralement.
Ouais, Valet, ils n'ont pas donné de nom, quoi. C'est juste un espèce de monstre araignée qui essayait de s'échapper de la quarantaine. Mais quand on apprend l'identité de ce monstre araignée, j'ai vraiment pas compris comment c'était possible que ce soit ce personnage-là qui soit ce monstre. J'ai dû rater quelque chose. Ou alors ce sera expliqué plus tard. En tout cas, ça ne l'est pas expliqué ici, dans ce numéro-là. Mais bon, en gros, il va aller le capturer pour essayer de trouver un antidote. Voilà
Ouais.
la mission. Il doit le ramener vivant, bien sûr. Ça va bien se passer. C'est justement une fois qu'il va être dans le labo, dans une espèce de tube de confinement, un peu comme là où il garde le Venom, quand il n'est pas sur Flash, que les choses vont un petit peu déraper. C'est-à-dire qu'il va s'échapper
Ouais.
de... Bien sûr, la base n'est pas dans la zone de quarantaine. Donc grosso modo, on a un monstre araignée qui va pouvoir contaminer d'autres personnes hors de cette zone de quarantaine. Tout ça par la faute de
D'accord.
Flash Thompson et de son général, mais voilà. Donc c'est de l'action, ça. Voilà. Il y a d'autres choses. Comment ils vont s'en sortir, etc. Ça je vous révèle pas. Vous avez, enfin, faudra lire l'épisode pour ça. On a un Venom qui va nous faire quelque chose de bizarre. Enfin, Venom le symbiote lui-même qui va faire quelque chose d'assez bizarre. Mais bon, je vous laisse la surprise. J'attends d'en avoir un petit peu plus là-dessus. J'espère que le prochain épisode va donner quelques réponses à des questions qu'on se pose à partir de ce numéro-là. Comme je dis, c'est de l'action non-stop. Venom va devoir aller s'infiltrer chez les ennemis.
Ouais.
Donc ça va être assez délicat. C'est sympa. Par contre, les dessins de Tom Fowler, moi j'ai vraiment du mal à accrocher.
Est-ce que c'est toujours lui depuis le début
Mais
ou...
c'est lui en alternance avec Terry Moore.
Ah
Et
oui, d'accord, oui.
je
C'est
préfère
pour
le.
ça que je...
Pardon,
Ah
Tony.
oui, parce
Tony.
que Terry Moore, je me suis dit...
Non,
Ah
non,
bon?
Tony. Et je préfère largement les dessins de Tony Moore.
Tony! Ah, c'est Tony!
Donc voilà, bon, pour
Alors,
moi ça va
j'ai
être un.
dessiné pas mal d'épisodes de Venom, petit travail...
Je le vois toujours avec son chapeau de
Oui,
castor.
voilà.
Bon, pour moi, ça va être un check-it à un check-it plus, on va dire. C'est sympa. Pour Spider Island, on verra si ça a vraiment des conséquences. En tout cas, là, il y a quelques informations qui sont lâchées pour avoir la suite.
D'accord. Eh ben alors, j'enchaîne sur Captain America numéro 2 par
Ed Brubaker.
Ed Brubaker, tout à fait normal pour du Captain America en même temps, et Steve McNiven. Alors, je vais déjà parler des dessins. On va pas déroger à la règle, comme ça c'est fait, je vais pas oublier. Bah justement, Steve McNiven, je trouve assez bizarre. Déjà le premier, c'était du Steve McNiven, mais je le trouvais pas dans son meilleur jour, peut-être. Enfin, c'était pas mal. Mais alors là, le numéro 2, c'est du Steve McNiven très. Alors, soit il a changé son trait, soit ça vient de l'ancrage, mais bof quoi. À la fin, je le reconnais limite plus.
Peut-être des délais aussi.
Oui. Mais alors c'est vraiment du Steve McNiven peut-être rushé trop, parce que bah voilà, à la fin, c'est marrant, il a un trait un petit peu à la Joe Quesada sur certains personnages. Je veux dire,
Ah ouais.
la manière qu'il a de dessiner les cheveux de Sharon Carter, bah, ça me fait penser un petit peu à la manière qu'a Joe Quesada de dessiner les filles qui dorment, en l'occurrence. Voilà, donc bon, c'est assez bizarre. Alors, est-ce qu'il a voulu changer son style? Est-ce qu'il va modifier un peu son style pour Captain America? Parce qu'on sait que beaucoup de dessinateurs modifient leur style en fonction des séries.
Bien
Ça, c'est
sûr.
le premier. Mais bon, je préférais le Steve McNiven d'Old Man Logan, de Civil War, de Spider-Man, etc. Voilà. Bon. Niveau scénario, il y a du mieux. Parce que dans le premier, ça faisait vraiment penser à une redite de Winter Soldier,
Ouais.
du retour de Bucky. Là, on en apprend plus sur l'agent Bravo et surtout sur le fameux Jimmy Jupiter. Le fameux enfant bizarre sur lequel ils avaient fait d'expérience durant la Seconde Guerre. Et au fait, il s'avère que l'agent Bravo a réussi à manipuler les dons de Jimmy Jupiter. Et du coup, au fait, c'est une espèce de Freddy Krueger, quoi, qui intervient dans les rêves des gens, l'agent Bravo.
D'accord.
Grâce à ce Jimmy Jupiter. Et bah. Ça lui donne un aspect encore qu'on n'avait pas vu dans la galerie des ennemis de Captain America, quoi. Donc voilà, ça prend une direction un peu plus intéressante et ça s'appelle, c'est pour ça que ça s'appelle au fait American Dreamers. Voilà, je me demandais pourquoi American Dreamers particulièrement. Eh bien, parce que c'est en rapport avec le rêve aussi, etc. Dans le
D'accord.
sens propre du terme.
Est-ce qu'on a une explication de pourquoi il faisait appel à Zemo la dernière fois? Parce que un
Alors,
mec
bah, par contre,
si
le
puissant que ça, pourquoi faire appel à un ennemi, quoi?
En fait, on ne le voit pas vraiment, cette fois-ci, l'agent Bravo. On le voit dans une séquence de rêve, justement. Donc, c'est lui, mais voilà, c'est pas le vrai dans la réalité, quoi. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il en est avec Zemo. On ne voit pas du tout Zemo dans cet épisode. Ça avance, c'est vrai que ça avance pas énormément, mais on a quand même des révélations sur l'histoire de Jimmy Jupiter et sur l'agent Bravo. Donc, on apprend quand même pas mal de choses dans ce comics. Il y a des scènes d'action, hein, ça bouge quand même, c'est toujours assez sympa. Alors, il y en a une notamment qui m'a rappelé une scène d'action du film, comme par hasard. Je pense qu'on va se taper un petit peu des scènes qui rappellent le film dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois dans les comics.
Bah, comme on a eu avec Iron Man.
Voilà, c'est un peu normal après qu'il s'inspire de ça. Globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais être sympa encore une fois, je vais dire c'est un bail. Pour le moment, c'est un bail. Bon. Ça m'a, disons, un peu plus intrigué que la première partie.
D'accord.
Qui était un peu du déjà vu. Donc un peu.
Le premier épisode était sympa quand même, hein, mais
C'était
voilà.
sympa. C'était sympa, mais bon.
D'accord. Bah, on va faire quelques petites reviews express. Et
Ouais.
d'ailleurs, vu que tu es sur le sujet de Cap, les Avengers.
Ouais, les Avengers, pardon, les Avengers 16 par Brian Michael Bendis et John Romita Jr., qui est revenu, puisqu'il y avait eu un épisode de Chris Bacalo. Donc bah là, au fait, justement, très bonne transition, puisque c'est un épisode centré autour de Steve Rogers, alors pas en Captain America, justement, ce qui voudrait dire que bah Captain America se situe bien après Fear Itself, hein, puisque...
Le temps qu'il soit de nouveau intronisé, quoi,
Ouais,
après la mort
hein.
de Bucky.
Ouais.
Là, ils sont en plein combat, ils n'ont pas le temps.
Ouais. Et alors là justement, c'est un petit peu l'épisode où il veut venger Bucky, il veut retrouver Sin, la fille de Crâne Rouge, et au fait il pense qu'elle se trouve dans un espèce de château en Allemagne ou je ne sais quoi. Et il s'y rend avec une équipe haute en couleur. Au fait, c'est Sharon Carter, l'agent Brand, non pas l'agent Brand, excuse-moi. Comment s'appelle-t-elle? Celle avec des lunettes qui travaillait pour Norman Osborn. L'agent End, voilà, la
Ah
main.
oui, Victoria.
Victoria End et l'agent du Shield,
Maria Hill.
Yael, voilà exactement.
Ah putain,
Donc
il s'est entouré le monsieur quand
oui,
même.
ben voilà, c'est ça.
Tranquille.
Il va essayer de la débusquer avec trois nanas. Je sais pas comment faut le prendre, c'est quand même assez bizarre. Et bah bien sûr c'est un piège, Sin n'est pas là, il se bat contre d'anciens ennemis à lui, donc on voit une espèce de petit cheptel d'anciens ennemis de Captain America.
Profite pas du château pour faire une petite partie fine.
Bah non, puisque le château en l'occurrence s'écroule en morceaux.
Ah,
Bon,
pas de chance.
le problème de cet épisode, c'est que c'est assez ridicule au fait. C'est-à-dire que on a une espèce de scène où Captain America, dessiné par John Romita Jr., qui devrait vraiment prendre des vacances, tire une gueule pas possible et gueule en regardant le ciel. Tu sais, il appelle Sin parce qu'il la trouve pas et il veut absolument en venger Bucky. Alors il fait Sin, Sin, Sin. Et puis tu le vois, il a des espèces de gros yeux globuleux, il a la bouche qui pend. T'as Sharon Carter derrière qui lui dit non mais tais-toi, hein, c'est fini. Enfin voilà, c'est assez grotesque. En fait, il a voulu faire un truc assez héroïque sur la vengeance, la mort de Bucky, essayer de lui rendre un dernier hommage. Et là, c'est vraiment du comique de super-héros. Enfin, normalement, on ne rigole pas en lisant ça. Et moi, je me suis marré en lisant ce comique. Je me suis marré. Donc bon, du coup, pour moi, c'est un pass. Hein. En plus, c'est un épisode qui ne fait pas avancer le schmilblick par rapport à Fear Itself, comme souvent avec les tie-in dans Avengers. D'ailleurs, Fear Itself n'avance pas déjà dans sa propre série. Comment pourrait-il avancer dans Avengers? Donc voilà, donc un pass, quoi, un joli pass. Et puis du John Romita Jr. vraiment fatigué.
Ah ben il en faut des passes.
Et du Bendis aussi d'ailleurs.
Il se réserve peut-être pour la Hammer, on va. Allez, Green Lantern Corps numéro 63, Scott Collins au scénario. Alors plusieurs dessinateurs parce que c'est divisé en petits chapitres. On a Joe Prado, Scott Collins, Freddie Williams et Daniel HDR, respectivement, pour chacun des chapitres. Bon, alors, le corps est en crise totale. Les membres ne s'entendent plus les uns avec les autres. Alors certains veulent démissionner parce que ils n'acceptent pas le retour de Sinestro. D'autres ont peur. Puis il y en a certains qui ne peuvent plus supporter les Terriens.
Ouais.
Et donc qui se vengent un petit peu sur Kyle Rayner. Voilà, c'est la merde dans le corps. Mais bah, quand il y a une crise, tout le monde s'unit à peu près pour aller défendre. On a aussi Boudica qui décide, enfin, qui était Alpha Lanterne, et qui va redevenir Alpha Lanterne, et qui a quand même gardé des souvenirs, et veut se battre pour arriver à expier toutes les défaites qu'elle a subies ces derniers temps. Voilà.
Ouais.
C'est franchement un épisode assez pauvre, vraiment un épisode d'attente. On sent qu'ils ont rien à dire parce qu'ils veulent pas commencer cette nouvelle époque avec le relaunch. Et donc, bah, ils nous font un petit peu de la soupe. Moi, ça me fait un peu peur. Scott Collins, je trouve pas super. Alors peut-être que c'était une consigne éditoriale, hein,
Ouais.
de lui dire bon, bah, c'est pas la peine d'entamer quoi que ce soit. Tu fais un truc un peu bateau, quoi. Bon, alors ça, il est bien arrivé.
D'accord. Mais enfin, je pense que ça va évoluer dans les prochains mois avec le relaunch. Mais là, je pense qu'ils ont voulu vraiment, au fait, boucler en quelque sorte les petites intrigues qui restaient à droite à gauche et puis.
Ouais, et puis peut-être nous montrer aussi que War of the Green Lanterns a eu un certain impact et que ça déchire un petit peu le membre du corps.
En fait, j'allais te dire, avec le Aftermath qu'on a vu tout récemment, j'ai l'impression que la guerre finalement des Green Lanterns est annoncée, tu vois, et qu'elle pourrait avoir lieu, mais après War of the Green Lanterns, puisque War of the Green Lanterns, finalement, c'était pas vraiment une guerre entre Green Lanterns.
Bah oui et non, enfin War of the Green Lanterns c'était quand même Chrona, quoi, Chrona qui a créé le corps, qui se servait du corps face aux autres. Donc voilà, enfin, il y en avait certains qui résistaient, d'où cette appellation. Mais ça, ouais, il a réussi à déstabiliser le corps en quelque sorte. Maintenant, je sais pas, faut voir. Disons que cet épisode est à peine un check-it. À peine.
D'accord.
Check-it vite à tendance passe, quoi. Parce qu'il se passe vraiment rien, quoi.
D'accord. Dernière review express pour moi. Donc, Flashpoint à Binsour, de Green Lantern d'ailleurs, ça s'appelle, exactement. Troisième partie.
Il n'entend plus rien, le pauvre.
Oui, oh là, oh. Et sans, alors justement, est-ce qu'à la fin il n'entendra plus rien et est-ce qu'il pourra écouter Comics Weekly ou pas? Vaut mieux pour lui qu'il ne l'écoute pas. sinon ça pourrait l'achever définitivement, je pense, avec cette blague. Donc Adam Schlagman au scénario. Et Robson Rocha, ou Rocha d'ailleurs, mais je pense qu'on va dire Rocha, je sais pas, au dessin. Donc bah écoute, c'est donc la troisième et dernière partie de cette mini Kaline à Flashpoint, et c'est plutôt pas mal comme finale, beaucoup mieux que certains finales que j'ai pu lire récemment.
Ouais, on avait déjà l'annonce de cette baston entre Abinsour et Sinestro.
Je vais pas dire comment ça se termine, au fait, comme ça ce sera vraiment de l'express. Toujours est-il que j'ai été agréablement surpris par la fin. Une fin assez héroïque d'Abinsour. Je te dis pas s'il survit ou pas, mais en tout cas la fin est plutôt sympathique et limite, j'aurais bien envie de le revoir, ce Abinsour, en fait. Alors je sais pas si on le reverra du coup grâce à Flashpoint.
En même temps, s'il est pas mort, ça change l'origine de Green Lantern.
Oui, voilà.
Donc je veux bien, mais moi je suis pas contre à le revoir, mais va falloir nous expliquer sacrément ce qui se passe.
Ouais, non mais en tout cas, donc, plutôt bonne surprise. C'est pas du niveau de Dark Knight, Knight of Vengeance, je veux dire, pardon, du Flashpoint Knight of Vengeance, mais c'est quand même plutôt pas mal, plutôt sympathique cette mini-série, et en plus, on voit le lien avec ce qui se passe dans Flashpoint, ce qui n'est pas plus mal.
Ça aide.
Voilà.
Ok, bon, bah voilà. Donc un bail?
Oui, allez, un bail pour l'ensemble de la mini. Faudra voir dans quel TPB elle est publiée, puisqu'ils vont faire des TPB VO avec, au fait, deux arcs par TPB. Bon, alors si ça tombe avec Deathstroke, pas de chance.
Il se peut que ça tombe quand même avec Al Jordan, puisque c'est lié, quoi.
Oui, voilà, par exemple. Je sais pas si Al Jordan était bon, mais en tout cas, Binsour était plutôt pas mal.
Ok, très bien. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Et on va se quitter, comme d'habitude, en faisant le petit tour et puis par le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin. Alors, j'ai un mot de la fin, mais je sais plus si je l'avais déjà dit, au fait.
Eh ben, c'est pas grave. Ce sera le premier mot de la fin rediffusé.
C'est un mot de la fin tout moisi, d'ailleurs, c'est le cas de le dire.
Mais tu m'inquiètes. Donc, en attendant que Benny se lance, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site, et puis retrouver les derniers épisodes sur iTunes, les plus anciens sur le site, évidemment. Puis, le site qui, comme vous l'avez peut-être vu, je l'espère, a changé. J'espère que cette nouvelle disposition vous plaît.
Attends, il a changé le site.
Ça fait bien. Ça fait plus d'une semaine.
Ah bon? Non, mais je plaisante, bien sûr qu'il a changé le site.
Tu m'as fait peur.
Ah bah oui, quand même. En fait, je tombe vraiment pour un con.
Tu m'as fait trop peur, putain.
Bah non, bien sûr que je le sais, avec ce joli logo Captain America, et d'ailleurs un logo qui changera peut-être avec le temps.
Oui, un logo qui a été réalisé par notre ami Kevin.
J'allais dire notre ami Claire, mais pas du tout notre ami Kevin.
Non, c'est Kevin.
Kevin Enhart, bien sûr, de The Enrich Project, que vous avez tous lu, bien sûr. Et si vous ne l'avez pas lu, il en reste bien sûr encore en vente. Je ne voudrais pas dire de bêtises d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs
si. Vous pouvez le commander sur le site
de l'Enrich. Il y en a deux, hein, c'est ça. Hein.
Non, le deuxième sort à la fin du mois de septembre.
Très bien, donc il sera prêt pour le LCF.
Oui.
Bon bah voilà. Vous savez tout.
Maintenant, on attend le mot de la fin.
Ah, le faux enfin, le faux de la main, tout moisi.
Le quoi? Le faux de la main.
Le faux. Oui. Voilà, c'était ça. Allez, au revoir à tous. Non. Oui, le mot de la fin en petite spéciale dédicace à Jean Lot. Mais alors justement, je me demande si je ne l'ai pas déjà sorti. Ce sera tout simplement Raskar Kapak.
Je crois que oui.
Ah mince. C'est vrai?
Oui. Mais je ne sais plus. Enfin, en même temps, par semaine.
Je sais pas si c'était en privé, au fait, que je
l'avais. Mais oui, voilà, ça devient difficile de savoir. Mais non, je crois qu'il était déjà sorti. Bon, bref, les auditeurs nous le diront.
Mais justement, et alors, si vous savez dans quel Comic City, eh bien, vous aurez un joli No Prize au Comic City avec la photo dédicacée de tout l'équipe.
Et dédicacée par la patte de lapin. Hein, c'est d'ailleurs ta signature officielle. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis d'ici là, comme d'habitude, lisez plein de comics et portez-vous bien.
À plus, les gens.